suite De quoi je me mêle avec Bouygues Télécom.
RMC, De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, excellent week-end. Jusqu'à 14h, nous voilà partis dans le tourbillon des nouvelles technologies. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité du high-tech. Avec au menu, d'ici 14h, notre rentrée des FAI qui revient cette semaine. Et ce samedi, nous allons nous intéresser à l'actualité brûlante de Bouygues Télécom. Bouygues Télécom qui a deux actualités en ce moment. À la fois son nouveau forfait Néo 2, mais aussi son arrivée sur le marché des fournisseurs d'accès Internet. Bouygues Télécom s'apprête à lancer sa B-Box. On en parlera tout à l'heure avec l'un des dirigeants de Bouygues Télécom qui sera mon invité. On s'intéressera aussi aux jeux vidéo avec Georges Fornet qui est le président de Sony Computer Entertainment. C'est le monsieur PlayStation 3 en France. Il vient nous présenter le Play TV. C'est un boîtier que vous pouvez brancher sur la PlayStation 3 qui va vous permettre de regarder la télé sur la PlayStation 3. Et si vous avez une PSP, alors là c'est le Nirvana. Vous allez pouvoir regarder tous vos programmes TNT sur une PSP grâce au Wi-Fi. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais tout à l'heure bien expliqué, ça sera génial. Notre rendez-vous Fnac avec Pascal Petitpas, directeur des labos Fnac, qui sera là. Notre deuxième rendez-vous IFA 2008. Quelles sont les grosses nouveautés en matière d'images, de sons qui vont arriver dans les mois qui viennent? Eh bien, on fera le point tout à l'heure. Ce sera aussi notre rendez-vous Micro Hebdo avec Yvan Roux et toute la rédaction de Micro Hebdo qui me rejoindra. On fera le point sur une grosse nouveauté de cette semaine, c'est Windows Live Messenger 9 qui vient de sortir, qui est téléchargeable gratuitement sur tout, pratiquement tous les sites web. On vous expliquera quelles sont les nouveautés. Et puis je recevrai aussi le directeur de la communication de Canon France. Canon qui, à quelques jours de l'ouverture de la Photokina, vous savez, ce grand salon dédié à la photo qui a lieu en Allemagne, viendra nous présenter toutes les nouveautés. On fera aussi un point sur le marché de la photo numérique en France. Voilà, c'est le menu de quoi je me mêle. Merci d'être là. Soyez les bienvenus. Christophe Joly m'a rejoint dans ce studio. Bonjour Christophe.
Bonjour François.
Christophe, rédacteur en chef adjoint chez 20 minutes. 20 minutes, bien sûr, tout au long de la semaine dans les plus grandes villes de France en version papier, mais aussi, c'est ça qui est génial, sur le web 20minutes.fr. On va maintenant survoler quelques-uns des gros titres d'actualité high-tech qu'on a pu lire cette semaine dans 20 minutes. Et on commence par la grosse actu du moment, c'est Sony qui, outre sa grosse conférence de presse qui a mené tambour battant à Paris il y a quelques jours, a annoncé l'arrivée enfin de son livre électronique, le e-reader.
Oui, le reader, il arrivera le 23 octobre dans les Fnac exclusivement. Dans un premier temps, le livre électronique, on va rappeler en deux mots, c'est arrivé il y a une dizaine d'années, ça s'appelait le C-Book, c'était un bide absolu.
C'était gros, c'était lourd.
Voilà, c'est annoncé comme une révolution, la révolution a fait long feu. Alors ça revient sur le devant de la scène depuis l'automne dernier, les Échos ont commencé à lancer une première version avec deux tablettes différentes, une connectée Wi-Fi, l'autre pas, qui permettait d'accéder au journal, évidemment. SFR et Orange testent actuellement des versions comme ça de e-paper aussi. C'est en cours de testement, ça va peut-être être lancé chez SFR d'ici la fin de l'année. Là, pour le coup, c'est un mastodonte, hein, Sony qui s'y attaque, avec un produit assez cher qui coûte quand même 299 €. On a trouvé que c'était pas donné. C'est un joli produit, comme toujours chez Sony, bien fini, design assez sympa.
Vraiment super, très fin.
Voilà, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus.
Si avec ce n'est une pochette en cuir très sympathique pour
protéger l'appareil. Voilà, vraiment un truc très classe. Si ce n'est que pour ce prix-là, donc près de 300 €, vous n'aurez rien d'autre qu'un morceau de plastique, certes très joli, qui permet de lire des livres, mais il n'y a rien dedans. Il faut tout de suite passer à la caisse pour acheter des bouquins, sauf les adhérents Fnac, qui, s'ils achètent ce produit, auront droit à deux titres offerts avant la fin de l'année. Voilà, ça c'est pour le lancement, donc c'est un site à être adhérent. Pour les autres, ils auront droit devront acheter des bouquins qui compteront seulement 10 à 15% moins cher que les versions papier. Alors on trouve quand même que c'est un peu cher, sachant que le catalogue est assez restreint pour le moment.
Mais pour l'instant, seul achète, voilà, joue le jeu, hein, en quelque sorte.
Donc c'est 2000 titres pour le moment, avec quelques best-sellers hein, quand même. Il y a notamment Amélie Nothomb, il y a Houellebecq, il y a quand même des gros vendeurs de bouquins, mais on trouve quand même que 2000 titres, c'est un peu court pour le moment. Autre problème, on ne peut pas partager l'ouvrage que vous aurez acheté, c'est-à-dire que si vous, François, vous avez adoré un ouvrage et vous allez me dire je voudrais, Christophe, que vous le lisiez, eh bien je ne pourrais pas, sauf à me prêter votre Reader Sony. Donc je sais que vous ne prêtez pas.
Il y a pas mal de contraintes encore. Voilà. Même si technologiquement, c'est vrai, la technologie d'encre électronique, puisque c'est cette matière qui permet l'affichage de pages, est superbe. On a vraiment l'impression de lire un bouquin. Hein.
Y compris en plein soleil.
Voilà, avec une autonomie qui est vraiment très très importante.
Ils annoncent 6800 pages. Alors c'est un peu virtuel, mais...
Ça fait quand même pas mal.
Ça fait pas mal.
Il faut savoir que en fait, cet appareil ne consomme de l'énergie que quand une nouvelle page s'affiche. Et quand une page est affichée, en fait, à partir de ce moment-là, l'appareil ne consomme plus. C'est ça qui est quand même assez révolutionnaire. Ça pas mal d'avantages, mais aussi, on le voit, pas mal d'inconvénients, surtout cette histoire de ne pas pouvoir prêter un bouquin à un ami. C'est quand même le béaba de la culture.
Et
ça,
sachant qu'il n'est pas connecté non plus, donc pour télécharger des livres, vous irez sur un PC ou sur un Mac, et il n'y a pas de Wi-Fi, rien de tout ça pour le moment. À l'inverse de certains produits, version e-paper de magazine par exemple, version SFR ou Orange évidemment, qui eux sont connectés, c'est quand même un atout indéniable.
Bon, on verra. C'est en tout cas. Après l'Allemagne, l'Angleterre et d'autres pays, le e-reader de Sony arrive en France. On va suivre ça de près. Canon, tiens, on en parlera tout à l'heure de Canon puisque je recevrai l'un des dirigeants de Canon. On fera le point sur le marché de la photo numérique en cette rentrée. Canon sort un nouvel appareil,
oui,
bien sûr.
Et je vais commencer par une question, François, qui a dit « Mes clients sont libres de choisir la couleur de leur voiture à condition qu'ils la veuillent noire. »
Ford.
Gagné. C'est Henry Ford qui a dit ça en 1908. Eh bien, c'est un peu la même chose dans le monde de la photo aujourd'hui. Hein. L'appareil, vous le voudrez gris, vous le voudrez noir. Pour le reste, ben, c'est régime sec. Donc, Canon s'est un peu mis
au goût du jour.
On va dire, voilà. Il sort des versions rose, blanc et bleu du Canon E1. Alors, vous allez me dire, François, persifleur comme vous êtes, mais Olympus, Pentax, Panasonic, Fujifilm et même Nikon font des téléphones...
Des appareils photos, mais Olympus et tous les autres font des appareils photos
couleur. Si ce n'est que là, Canon parle d'une vraie rupture de gamme avec un côté vintage, rétro. C'est-à-dire que le plastique du Canon E1 reproduit la bakélite. Donc c'est très très joli. Moi je les ai vus, j'ai trouvé ça très sympa. Ils comparent leur E1 à la Fiat 500, rien de moins. Si le E1 a autant de succès de la Fiat 500, tout ira bien pour Canon. Pour le reste, ça reste un appareil photo sous la bakélite. C'est un 10 mégapixels, zoom optique 4 fois, zoom numérique 4 fois aussi. Il est stabilisé évidemment. L'écran fait 2,5 pouces, détection de visage, voilà, le mode scène, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Je vais vous dire le prix.
Un compact haut de gamme, on va
dire. Plutôt haut de gamme. Il est à 199 €, c'est-à-dire que c'est le prix du marché, donc c'est pas mal. Vous avez la couleur au prix du gris, donc j'achète.
Et qu'on se rend compte que maintenant, les constructeurs sont obligés d'innover dans tous les domaines, et pas seulement technologiquement. Hein. Le design, maintenant,
faire la différence.
Est capital. Google, on va en parler. Encore une fois, Google qui a son téléphone dans les starting blocks qui va bientôt sortir aux États-Unis.
Oui, voilà, on annonce une date, c'est le 23 septembre, donc c'est vraiment cette semaine. Le premier téléphone sortirait avec T-Mobile aux États-Unis sous la marque HTC. Le nom serait Dream, a priori. Il faut savoir quand même que c'est seulement 10 mois après la présentation publique de Android, ce système d'exploitation, cet OS dédié au téléphone mobile, libre évidemment, ça va sans dire. Donc ils ont fait très très vite pour développer ce nouveau téléphone. C'est aussi quelques mois après le rachat de Symbian par Nokia, qui a ouvert aussi Symbian. Symbian, c'est ce qui fait fonctionner la majorité des téléphones Nokia, voilà, quasi-totalité. Désormais, voilà, les développeurs pourront aussi s'attaquer à Symbian. Ça veut dire que c'est le début de la guerre des systèmes d'exploitation pour les téléphones mobiles, parce qu'il y a aussi Microsoft qui est dans l'arène et qui n'est pas prêt qui n'a pas envie de se tailler des croupières.
Et puis l'iPhone au milieu de tout ça, tout ce beau monde, mon avis, ça va être sanglant.
C'est la cible première, évidemment.
Oui, évidemment. À noter que certaines rumeurs persistantes font état que de la sortie de ce téléphone en France au printemps prochain.
Au printemps prochain, chez la HTC.
Voilà, on verra, on vous tiendra au courant. Tiens, la France n'est pas très compétitive dans les technologies de l'information et c'est le moins qu'on puisse dire.
La France est classée 20e, j'ai bien dit 20e, sur 66 pays. C'est un résultat publié par l'Association des fabricants de logiciels, BSA. Dans le top 5 figurent les États-Unis évidemment, le Royaume-Uni et trois nouveaux venus, Taïwan, la Suède et le Danemark. Voilà, la France est 20e, donc il n'y a pas de quoi être très fier.
Non.
L'explication tient en deux mots, protectionnisme, on est vraiment trop protectionniste en France, et les freins administratifs, notamment à la création d'entreprises.
Oui, qui sont un frein quand même assez important. Tiens, aussi quelques news concernant Microsoft et sa Xbox 360. La Xbox 360 qui est en train de se préparer pour les fêtes de fin d'année avec une nouvelle baisse des prix.
Et voilà, une nouvelle, c'est la troisième et c'est depuis hier, donc c'est une bonne nouvelle pour les gamers. Désormais, elle commence à 179 €.
Sauf si vous l'avez acheté il y a une semaine.
Voilà.
C'est une très mauvaise nouvelle.
Donc désormais, elle va entre 179 € jusqu'à 239 € pour la version 60 Go et même 299 € pardon,
pour la version
120 Go. Voilà.
Qui est la version très haut de gamme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir une console de nouvelle génération.
Pour moins de 300 €.
Voilà. À 179 €.
Et je vous conseille le haut de gamme à 299.
Moins cher, beaucoup moins cher. Donc la Nintendo Wii qui, elle, rappelons-le, est toujours à 250 €.
Hein. Voilà. Qui n'a jamais bougé son prix.
Et oui, c'est un énorme carton.
Bah voilà.
Pas la peine que Nintendo fasse des efforts pour faire baisser le prix, puisque de toute façon, leur console se vend comme des petits pains.
Puis elle est caractère unique.
Alors que bon, Microsoft, ils ont un petit peu plus de mal. Hein. On s'intéressera tout à l'heure aux jeux vidéo, je vous le disais, aux jeux vidéo nouvelle génération, avec le président de Sony Computer France, qui sera mon invité, Georges Fornet. On parlera entre autres du Play TV, qu'on avait évoqué d'ailleurs dans De quoi je me mêle.
Et vous lui parlez de la Xbox.
Et voilà. Et on en parlera évidemment de la Xbox et de la baisse de prix. Est-ce que la PlayStation 3 va bientôt baisser de prix? Tiens, on lui posera la question tout à l'heure. Le classement Greenpeace, ça c'est un rendez-vous qu'on aime bien.
Voilà.
C'est faire un petit point sur les produits les moins polluants liés aux nouvelles technologies.
Voilà, et là c'est le champagne chez Nokia, puisqu'ils sont classés premiers, les plus vertueux en matière d'environnement selon Greenpeace. Ils ont obtenu une note de 7 sur 10. Greenpeace plutôt se félicite que Nokia n'utilise plus de PVC dans ses produits depuis 2005, donc c'est quand même pas mal, ça fait quand même plus de 3 ans. Ils se félicitent aussi du recyclage des téléphones mobiles en Inde, qui est quand même un énorme marché. Le deuxième, c'est Samsung, avec 5,7 points sur 10. Dernier, c'est Nintendo. Retenez bien la note, François, 0,8 sur 10.
Ah, la claque pour Mario.
Voilà, la claque
pour Mario. Ça fait mal. Hein.
Microsoft ne fait à peine mieux. Ils sont à 2,2 sur 10. De façon générale, le secteur des consoles de jeux vidéo, parce que Microsoft, il s'agit de ça, n'est jamais très très bien classé en matière d'environnement.
Ouais. Et Apple, dans ce classement
Je ne peux pas vous dire.
Ah, ils sont pas, tiens.
Non, mais ils figurent pas sur mon doc, mais ils sont plutôt bien classés parce que Greenpeace récemment les a félicités.
Oui, c'est vrai.
Pour le MacBook Air et pour le nouvel iPhone.
Bon, on va terminer par une news un petit peu plus rigolote quand même. Les people les plus dangereux sur le web selon un célèbre éditeur d'antivirus.
Voilà, c'est ceux en fait qui permettent aux cybercriminels
de vous alpaguer
pour ensuite infecter votre ordinateur. Eh bien, les premiers, les plus dangereux, ce sont Brad Pitt et Beyoncé. Voilà.
Ah.
Donc méfiance. Si vous cliquez sur un site qui vous donne des infos là-dessus, vous risquez d'être envoyé sur un faux site qui a envie de vous injecter un verre ou un virus sur votre PC.
Ici, si on tape Christophe Joly.
Non, tout va bien.
Tout va bien,
ouais, je ne suis pas people encore.
Pas loin.
Pas loin.
Pas loin, puisque vous êtes tous les samedis sur RMC.
Tout à fait.
Mon cher Christophe. On vous reconnaît dans la rue maintenant, un petit peu ou pas?
Pas encore.
Voilà, ça va pas tarder.
C'est le problème de la radio.
C'est ça. Je me disais bien. Christophe Joly, merci.
Merci à vous.
Rédacteur en chef adjoint chez 20 minutes. 20minutes.fr hein, pour retrouver toutes ces infos. Vous restez avec nous. De quoi je me maille la suite. Hervé Bonneau, Planète Techno de VSD. On s'intéressera aux nouvelles technologies au service des seniors. Ça aussi, c'est un marché phénoménal. On en évoque le sujet dans une minute. À tout de suite.
RMC. De quoi je me mail, François Sorel.
De quoi je me mail, toute l'actualité des nouvelles techno, chaque week-end sur RMC, 12h-14h, 2h pour plonger dans l'univers passionnant de la high-tech. Tout à l'heure, notre rendez-vous avec Pascal Petitpas, directeur des Labos Fnac, qui sera à mes côtés. On reviendra sur toutes les innovations que l'on peut attendre dans le domaine de la télé et de la hi-fi aussi, dans les mois et les années qui viennent. Mais auparavant, et comme chaque samedi, j'accueille Hervé Bonneau. Bonjour Hervé.
Bonjour François.
Hervé, journaliste donc à VSD, c'est l'heure de notre rendez-vous Planète Techno. Et cette semaine, VSD nous parle d'un phénomène nouveau, celui du papy-boom qui touche le monde des nouvelles technologies depuis quelques années. Hervé, de plus en plus de seniors surfent sur Internet et les fabricants proposent de plus en plus de produits adaptés, parfois même trop adaptés, et qui en deviennent un peu infantilisants.
Et oui François, alors c'est vrai qu'on observe depuis quelques temps un vrai papy-boom dans l'univers du high-tech. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, puisque selon Médiamétrie, 27% des internautes français ont aujourd'hui plus de 55 ans, en sachant que les seniors détiennent en plus le record du temps passé sur Internet, avec près de 10 heures par semaine. Et autre chiffre impressionnant, près d'un tiers des seniors surfent à partir de leur téléphone mobile. Donc on peut dire que maintenant, ils sont totalement dans le coup, puisque bien des jeunots n'utilisent même pas leur téléphone mobile pour aller sur Internet.
Exactement. C'est vrai que les seniors sont en train de rattraper
Absolument.
Les plus jeunes. Et c'est bien. Et évidemment, les professionnels ont compris qu'il y avait un marché à conquérir. Là,
Les fabricants ont en effet se sont adaptés, sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à proposer des ordinateurs destinés spécifiquement aux plus de 55 ans. Alors ce sont des ordinateurs en général très, très simples d'utilisation, mais c'est vrai qu'en quelques années les choses ont évolué. Et bon, alors il y a encore une dizaine d'années, par exemple, beaucoup des personnes les plus âgées de la population ne comprenaient pas grand-chose à l'informatique. Aujourd'hui, on peut dire que ce public s'est totalement adapté et les gens ne sont plus à ce point-là déconnectés, au contraire.
C'est bien. Alors, premier exemple de ces produits destinés aux seniors, une nouveauté couronnée lors du dernier concours L'Épine, c'est l'ordinateur Maggie. Rien à voir avec la star des séries télévisées des années 80, vous l'avez bien compris. L'ordinateur Maggie, donc sans clavier ni souris, mais qui possède un écran tactile et une webcam.
Absolument, alors toutes les fonctionnalités ont été rendues très accessibles, puisqu'il suffit par exemple d'appuyer sur des pastilles pour échanger des textes, des photos, des vidéos. Donc pas de navigation compliquée, tout a été simplifié. Et encore mieux, les mails peuvent être par exemple lus à haute voix pour les personnes qui auraient des difficultés à lire sur l'écran. Et puis il existe aussi un annuaire téléphonique qui se présente sous la forme d'une liste de photos. Alors c'est ce qu'on disait, c'est vrai que c'est simplifié au maximum et ça s'adresse vraiment aux personnes qui n'ont eu aucun contact, oui. ou alors un contact minimum avec,
avec, la techno.
Avec la technologie auparavant.
Ouais. Ouais, donc on a une petite photo, on clique dessus et ça appelle la personne en question. En fait.
Absolument.
Mais les PC ne sont pas les seuls concernés. Hein. Il y a beaucoup d'autres appareils pour les seniors aujourd'hui. Hein.
Oui, alors avec, par exemple le Snapshot proposé par Orange, qui est un cadre photo numérique qui est capable de recevoir des images à distance. Et ça pourrait vraiment faire fureur à Noël en tant que cadeau. Pour les seniors. Alors en fait, le principe va au-delà du simple cadre électronique, puisque par exemple, la famille, les proches, peuvent envoyer leurs clichés directement à partir de leur téléphone mobile ou d'un portail internet et renouveler finalement très facilement les photos. Parce que c'est vrai que sur les cadres photos...
Oui, en général, c'est toujours les mêmes photos qui tournent.
C'est ça.
Il faut les recharger, alors que là, en fait, ça change à distance.
Voilà, à distance.
Donc, je vais envoyer une photo du petit dernier à ma mère, j'appuie sur un bouton sur mon portable et ça part, elle le reçoit directement.
Voilà. Ou les photos de vacances qui s'affichent directement sur la commode ou sur la table du salon. C'est amusant.
Ouais. Et du côté de la téléphonie aussi, hein, Hervé, il y a du nouveau pour les seniors avec le Handle Plus 324 GSM de la société Doro.
Oui. Et là encore...
Déjà, le nom n'est pas trop senior.
Non,
on aurait dû faire un petit effort pour le raccourcir.
Pour faire quelque chose d'un petit peu plus simple.
Un peu plus digeste.
C'est clair. Et bon, voilà. Et là, encore une fois, en revanche, au niveau de l'appareil lui-même, on est au niveau de la simplification extrême. C'est vrai que ça peut s'avérer utile à certaines personnes. On a un téléphone là, sans écran, qui dispose de grosses touches rétroéclairées et qui permet d'appeler 5 numéros préenregistrés. Alors je sais que vous l'avez vous-même adopté.
Oui, c'est vrai.
C'est votre nouveau téléphone.
C'est mon nouveau téléphone, bien sûr.
Mais bon, oui. En tout cas, on peut quand même imaginer que ça peut sauver des vies en cas d'urgence, par exemple, en cas de chute d'une personne âgée dans la nuit.
Oui, il suffit d'appuyer sur un bouton, la connexion s'établit.
Absolument, avec les services d'urgence. Et donc, pour certaines personnes qui peuvent parfois avoir des difficultés à se relever ou qui ne peuvent pas se relever, ça peut sauver des vies. Et puis, ça peut évidemment être utilisé pour joindre ses enfants. Voilà. Il faut en plus préciser que cet appareil est très léger et qu'il est fourni avec une lanière pour être porté autour du cou.
Bah oui, comme ça, on sait où il est tout le temps. D'ailleurs, vous allez essayer de me le piquer, je pense.
Oui, parce que j'aime beaucoup aussi ce modèle.
Ouais, le Handle Plus 324 GSM. Et d'une manière générale, il y a beaucoup d'initiatives de la part des professionnels, hein, des opérateurs par exemple, pour réduire la fracture numérique chez les seniors.
Oui, avec des forfaits adaptés. Alors ça part d'une bonne intention, mais ce n'est pas du goût de tout le monde, parce que ça c'est un petit peu le revers de la médaille. Certaines personnes âgées, ou en tout cas les seniors d'une manière générale, au-delà de 55 ans, commencent à être un petit peu, pour certains, agacés d'être perçus, entre guillemets, comme un petit peu décalés par rapport à tout ce qui est technologique.
Bah oui, parce qu'on est vieux de plus en plus tard, finalement, aujourd'hui.
Voilà, et puis finalement, c'est vrai qu'on peut souffrir d'une baisse de l'acuité visuelle, on peut souffrir d'une baisse de mobilité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne soit pas capable d'utiliser quelque chose d'un petit peu complexe technologiquement. Et voilà, donc il y a un petit peu ce phénomène-là. Des gens, finalement, vont avoir des produits adaptés, mais sont tout à fait capables aussi d'utiliser les produits habituels.
Voilà, en tout cas, l'essentiel c'est tester ce genre de produit, voir s'il vous correspond.
Oui.
C'est vraiment la solution, la première chose à faire. Hein.
Absolument.
Merci beaucoup Hervé.
Merci à vous.
Hervé Bonneau, donc journaliste à VSD, c'était notre rendez-vous Planète Techno, le high-tech sur la vague qui sort sur la vague senior. Vous restez avec nous, de quoi je me mêle la suite dans un instant, ce sera notre rendez-vous avec Pascal Petitpas, directeur des labos FNAC. A tout de suite. De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Jusqu'à 14h, votre dose hebdomadaire de high-tech. Tiens, avant de vous faire parcourir le sommaire de cette heure et demie qui nous reste encore à passer ensemble, un mot sur Facebook, ce site communautaire où De quoi je me mêle est présent, hein, avec un groupe qui est très actif. Juste une petite précision, ce groupe va atteindre dans les heures qui viennent le cap des 1000 membres. Donc si vous voulez faire partie du groupe de quoi je me mêle, allez-y, hein, c'est sur facebook.com. Et donc vous tapez De quoi je me mêle dans le petit moteur de recherche. On sera très heureux de vous y retrouver. Alors donc, encore une heure et demie dédiée aux nouvelles techno sur RMC, c'est De quoi je me mêle. Tout à l'heure, nous nous intéresserons en fait au marché de la photo numérique à l'occasion de l'ouverture de la Photokina, qui est un gros salon dédié à la photo numérique qui a lieu en ce moment même en Allemagne, à Cologne. Nous y serons d'ailleurs et on va s'y intéresser par le biais de Canon qui est quand même l'un des poids lourds de la photo numérique et avec qui nous ferons un point en fait sur le marché de la photo numérique et on s'intéressera aussi à quelques nouveautés signées Canon. Pascal Petitpas sera là dans une minute. notre rendez-vous Fnac. On s'intéressera là encore à toutes les nouveautés qui vont arriver dans le domaine de l'audio et de la vidéo. Toutes ces nouveautés qui ont été présentées au salon IFA 2008 à Berlin. Deuxième heure de Quoi je me mail avec l'un des dirigeants de Bouygues Télécom. On poursuit notre rentrée des FAI avant de retrouver Free, Orange, Numéricable dans les semaines qui viennent. Là, c'est à Bouygues Télécom de passer sur le grill. Quelles sont les nouveautés de la rentrée chez Bouygues en matière d'offres de téléphonie mobile, mais aussi d'offres d'Internet à la maison, puisqu'ils deviennent fournisseurs d'accès à Internet. On fera le point. Je recevrai aussi tout à l'heure Georges Fornet, qui est le monsieur PlayStation 3 en France et le président de Sony Computer Entertainment. Et vous verrez que la PlayStation 3 évolue. On peut maintenant capter la TNT grâce à sa PlayStation 3 et liée à sa PSP. Ça vous permet de regarder la télé où que vous soyez dans le monde grâce à une connexion Wi-Fi. Merci d'être là. C'est de quoi je me mail sur RMC.
Eh ben, depuis que Mathieu a pris un forfait Néo 2 tout illimité, son banquier il est quand même super détendu.
Ah oui, c'est normal. Néo 2 c'est moins cher que ce que tu crois.
Eh oui, le nouveau forfait Néo 2, c'est tout illimité, tous opérateurs à prix irrésistible. Appel, SMS et MMS illimité de 18h à minuit et tout le week-end, plus web et mail illimité 24h sur 24. À découvrir sur bouyguestelecom.fr. Engagement 12 mois en France métropolitaine hors numéros spéciaux avec téléphone et messagerie compatible. Offre soumise à condition, détail des illimités en magasin et sur bouyguestelecom.fr.
RMC, de quoi je me mail, François Sorel.
Chaque samedi sur RMC 12h-14h, c'est de quoi je me mail, toute l'actualité des nouvelles techno. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. RMC.fr, rubrique de quoi je me mêle pour nous écrire, pour réagir à l'émission. Vous avez le groupe de Facebook aussi, le groupe de quoi je me mêle sur Facebook qui cartonne. Vous êtes pratiquement un millier à y être, à réagir, à discuter. Donc là aussi, n'hésitez pas, c'est vraiment un espace d'échange, de dialogue très, très intéressant. Pascal Petitpas, bonjour.
Bonjour François.
Directeur des labos Fnac, l'une des stars de quoi je me mêle que vous retrouvez chaque samedi dans ce rendez-vous dédié au high-tech. Pascal, donc directeur des labos Fnac, je l'ai dit, on va poursuivre notre épisode, notre saga IFA, hein, un salon qui s'est déroulé, rappelons-le, fin août, début septembre, nous y étions. On revient un petit peu sur tout ce qui a été annoncé en matière de nouvelles technologies dans le domaine de l'image, du son. On s'intéressait la semaine dernière aux LED, à ces écrans de plus en plus fins aussi. Il y a aussi d'autres nouveautés qui arrivent, comme un certain balayage de 100 Hz. Et quand on voit les démos présentées sur les stands des divers constructeurs, on se dit waouh, mais pourquoi ça n'a pas existé avant ? Sauf que, qu'est-ce que vous en pensez, Pascal ?
Alors,
de ce balayage de 100 Hz.
Alors, effectivement, l'image.
Alors, c'est pas un balayage de poussière. Hein. Non, non, non. Expliquons un petit peu ce que c'est.
Oui, le balayage, effectivement, c'est le nombre d'images qui va apparaître par seconde. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'un téléviseur, même s'il est capable d'afficher des images fixes de très belle qualité, ce qu'on lui demande avant tout, c'est d'afficher avec la plus grande des fluidités une image en mouvement. Et c'est toujours quelque chose d'assez délicat à réaliser. Et les constructeurs, depuis un certain temps, proposent du 100 Hz. Le 100 Hz, c'est d'inventer une image intermédiaire entre deux images réelle. Et donc, quand c'est très bien fait, cette image intermédiaire, elle est vraiment créée par rapport à l'image précédente et l'image suivante.
C'est-à-dire qu'on interpole. Et ça donne une fluidité. Il n'y a pas ces petites saccades qu'on voit parfois
sur les mouvements de caméra, par exemple.
Voilà, sur les travelling. Ou alors, par exemple, quand vous voyez des défilés, le générique des émissions, parfois ça saccade, etc.
C'est là où on le voit très bien, effectivement.
Mais le 100 Hz, ça existe depuis très longtemps. Moi, je me souviens, j'avais une télé cathodique que j'avais achetée il y a 15 ans, qui était 100 Hz.
Absolument.
La fameuse Philips 100 Hz.
Exactement. C'était plus simple à l'époque, car les sources étaient des sources en définition standard. Aujourd'hui, il y a 5 fois plus d'informations, et ce qui veut dire que pour fabriquer ces images, et de la meilleure manière qui soit, il faut des calculateurs qui sont extrêmement puissants pour créer cette image intermédiaire qui va donc rendre le contenu beaucoup plus fluide.
Donc, plus de fluidité, concrètement, ça permet d'avoir une image plus belle, c'est vrai ?
Oui, véritablement, on sent beaucoup plus de détails. Alors, après, il faut faire attention parce que certains constructeurs veulent aller trop loin dans la fluidité et on perd parfois du naturel.
Oui, l'image devient artificielle.
Une image cinéma peut presque donner l'impression d'être une image vidéo.
Voilà, c'est
donc
ça.
Il faut bien regarder l'image.
C'est un très bon exemple parce que c'est véritablement la différence entre ces deux technologies. Vous regardez un film à la télé et après vous regardez une émission vidéo, une émission de télé, de plateau.
Et
vous avez vu, l'image n'est pas la même, hein, on le voit tout de suite. Et bien voilà, la différence c'est ça, entre le 50 Hz et le 200 Hz. Quoi. C'est
exactement.
Gros, c'est ça,
hein. Alors donc le 100 Hz c'était une image intermédiaire et le 200 Hz va consister à mettre une image intermédiaire au milieu en fait, de l'image qui avait été créée sur le 100 Hz et une autre qui va la suivre. Donc on aura 3 images inventées entre 2 images réelles.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors ça, on a vu beaucoup de démonstrations, hein, c'est toujours délicat et j'attends d'avoir ces produits en test et de pouvoir réaliser tous les tests de fluidité possibles au labo pour pouvoir véritablement me prononcer. Mais ça apporte vraiment quelque chose sur les mouvements très rapides de l'image. C'est-à-dire quand c'est un mouvement avec une vitesse moyenne, le 100 Hz c'est parfait, mais quand c'est très rapide, ça apporte encore plus de fluidité.
Voilà, par exemple un travelling dans un film ou des choses
choses comme ça. Hein.
Alors attention, parce qu'on parle déjà de 600 Hz et pourquoi pas aller plus loin. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'images qu'on intercale, c'est bien sûr la manière dont ces images ont été fabriquées.
La qualité.
C'est ça qui fait la
qualité. Encore une fois, on revient aujourd'hui sur le traitement vidéo qui est la clé d'une belle image. Hein.
Exactement.
Il n'y a pas que la dalle ou la qualité de l'écran, il y a aussi la qualité de...
La bonne qualité d'un téléviseur, vidéo. C'est l'ensemble, c'est la dalle plus son traitement.
C'est pour ça qu'il y a des marques qui sont plus ou moins reconnues pour ça d'ailleurs. Hein.
Absolument, et puis généralement sur les produits les plus basiques de toutes les marques, on n'a pas des traitements évolués et plus on monte en gamme, plus on retrouve des traitements évolués de l'image.
Avec de plus belles images.
Exactement.
Donc ça c'est pour le 200 Hz. Les écrans aussi qui sont de plus en plus connectés, c'est-à-dire que en plus de brancher votre prise HDMI, vous avez une petite prise Ethernet et vous branchez ça sur Internet ou encore mieux parfois en Wi-Fi.
Et voilà, les deux possibilités. Donc on a une box par exemple avec une prise Ethernet de disponible, on va brancher tout simplement son téléviseur et là on va accéder à des nouveaux services, c'est-à-dire que soit en superposition de l'image on aura des informations, éventuellement même qu'on aura choisi. Alors ça peut être bien sûr l'actualité, ça peut être la météo, ça peut être la bourse et qui vont défiler par exemple en bas de l'image sous forme d'icône, pourquoi pas. Ou même on va réserver une partie de l'image à des contenus vidéo de qualité un peu inférieure. On peut penser à des contenus comme YouTube par exemple, hein, des contenus qui sont aujourd'hui très très regardés.
Bon, on est loin de l'HD là.
Alors là on est loin de l'HD, c'est pour ça d'ailleurs je précisais dans une plus petite fenêtre, parce que si on regarde ces contenus en plein écran, c'est pas très très joli.
Même si
aujourd'hui on a de plus en plus de définitions.
De contenus même HD sur Dailymotion ou sur YouTube.
Absolument.
Hein, c'est vrai.
Et là ça permet d'avoir un téléviseur qui se transforme un petit peu. Il y a des accords, hein, puisque aujourd'hui on va voir par exemple que Samsung va être associé à Yahoo, que Panasonic va être associé à Eurosport et à YouTube. Voilà, il y a des associations qui se font et on peut ainsi avoir un grand nombre d'informations au-delà d'une image sur l'écran.
On peut imaginer que ce système soit un jour couplé avec la TNT. Je dis une bêtise, je regarde une émission et qu'en push, je puisse recevoir des informations liées à cette émission par Internet.
Alors,
et réagir à ces informations, par exemple.
Alors,
on a une voie de retour, c'est ça qui est génial.
Tout à fait, voilà. C'est qu'il y a toujours besoin, pour ce cas-là, d'informations descendantes et d'informations montantes. Après, c'est purement lié au débit. Hein, quand on a, par exemple, de la TNT HD, on a aujourd'hui une place réservée à la vidéo, une place réservée à l'audio et une place réservée aux data. Reste à voir si on a suffisamment de place dans cette zone pour transférer suffisamment d'informations intéressantes avec aussi un beau graphisme, mais on peut l'imaginer, oui.
Bon, à suivre. En tout cas, les téléconnectés sur Internet arrivent. Elles deviennent de plus en plus media center aussi, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez du contenu sur votre ordinateur, vous pouvez dans certains cas, le transférer sur votre télé. Par exemple, regarder un film que vous avez téléchargé sur Internet.
Et on verra pour ça un terme qui arrive de plus en plus, c'est le DLNA. On n'est pas tellement habitué à ce terme. C'est un standard entre l'ensemble des fabricants. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous utilisent en fait la même technologie. L'intérêt surtout, c'est qu'on va pouvoir échanger ces contenus audio, photo et vidéo, et pourquoi pas donc soit par une liaison filaire avec l'ordinateur et par intermédiaire d'une box par exemple, ou soit en Wi-Fi, ou pourquoi pas en CPL.
Pas mal.
Donc et là ça peut être intéressant.
Ça va généraliser ça ? On peut imaginer que dans quelques années...
Alors on a déjà vu un certain nombre, là il y a au moins 5 constructeurs qui proposaient des produits DLNA. Donc c'est vraiment une voie qui semble importante pour le pont entre l'ordinateur et l'écran.
Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est l'une des vraies révolutions de ces derniers salons qu'on sillonne, vous et moi, Pascal, c'est l'OLED. Une technologie incroyable avec une finesse d'écran, c'est fou, et une qualité qui est bluffante. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir ce qui se passe dans la vraie vie, tellement c'est lumineux, tellement c'est contrasté. Il y a vraiment une différence de qualité énorme entre le LCD, le plasma et l'OLED. On commence à voir timidement de petits écrans qui arrivent en OLED.
Oui, enfin, puisque ces produits étaient sortis au Japon, aux États-Unis, ils sont encore sortis avec un nombre d'exemplaires très très limité. Ils sont promis pour l'Europe. Alors pour se faire une petite idée, un écran 11 pouces, c'est aux alentours de 3000 euros.
Voilà.
Hein, donc c'est vraiment un produit d'exception.
11 pouces, c'est vraiment l'écran d'un petit ordinateur.
C'est vraiment l'écran d'un petit ordinateur, absolument. Et alors l'OLED, c'est vrai, ça a une dynamique d'image, un contraste, un angle de vue. On parlait d'épaisseur la semaine dernière, d'un centimètre. Là, on est à 3 mm hein, d'épaisseur sur l'OLED, donc c'est assez incroyable.
Allez, fantasmons un petit peu, on se retrouve en 2025.
Hein, avant ça.
2020
Non, les constructeurs finalement ont déjà proposé, d'ailleurs, il y avait des démonstrations chez Sony et Samsung d'écrans de plus de 20 pouces, il y avait du 27 pouces. Alors aujourd'hui, c'est pas gérable économiquement. Mais
moi, je me disais, est-ce qu'on peut imaginer par exemple un jour avoir un écran aussi grand qu'un mur, par exemple en LED ?
Oui, est-ce complètement, que c'est on pourrait imaginer de tapisser finalement.
C'est pour ça que j'allais un petit peu loin, j'allais en 2025.
Mais là, effectivement, on aura un peu moins de cheveux ou plus de cheveux blancs au choix.
Voilà, au choix, bon, nous, à mon avis, ça sera moins. Hein.
Ça sera moins plutôt.
et donc, on pourrait imaginer imaginer avoir un écran qu'on plaquerait comme ça, comme une tapisserie ?
Oui, complètement. Et on peut même imaginer par l'OLED avoir des sources de lumière également. C'est-à-dire que l'OLED pourrait à terme devenir une source de lumière pour éviter
les éclairages incandescents. C'est ce qui va remplacer à terme, à votre avis, le LCD, le plasma ?
Oui, ça mettra un certain temps parce qu'il faut aussi améliorer la pérennité du produit. En effet, aujourd'hui, les OLED n'annoncent pas des durées de vie aussi larges que ce que propose le LCD, le plasma. Ouais. Mais ceci est en pleine évolution. Il y a beaucoup d'études, beaucoup d'ingénieurs qui y travaillent. Et donc, bien sûr, le but, c'est d'arriver à un produit commercialisable.
Voilà, mais je vous invite à aller, j'imagine qu'à la FNAC, vous allez commercialiser l'OLED à la fin de l'année, non ?
Voilà, le petit 11 pouces qui est quand même assez exceptionnel.
Ah ouais, non, on voit ça, c'est impressionnant, c'est hallucinant.
Étonnant, la production est encore très très faible.
Ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pour ça que ça coûte si cher d'ailleurs.
Exactement.
On quitte le monde des écrans pour s'intéresser justement à ce qu'on donne à manger à ces écrans. Parce que c'est bien beau, tous ces écrans HD, de plus en plus beaux, etc. Mais il faut les nourrir.
Et oui.
Et on les nourrit. Bon, alors il y a la TNT HD qui sera lancée en octobre. Alors pas tous les contenus seront en HD. Hein. Il n'y en aura qu'au début quelques heures. Et puis petit à petit, ça montera.
Absolument.
Il y a les box aussi qui proposent de l'HD. Et puis il y a le Blu-ray qui commence véritablement à s'installer puisque c'est maintenant le seul et unique format HD depuis le début de l'année. Les constructeurs s'y mettent, hein, Pascal.
Oui, véritablement, il y a des efforts.
À des prix en plus, voilà, ça commence à être vraiment
Non seulement des produits
sympa.
Qui sont plus aboutis, hein, qui profitent des toutes dernières technologies du Blu-ray, et puis à des prix vraiment accessibles maintenant, puisqu'on a des platines tout à fait intéressantes à 300, 350, 400 euros. Alors c'est plus cher, hein, bien entendu, qu'un lecteur DVD, mais il faut reconnaître que ces platines offrent une qualité d'image qui est assez exceptionnelle. Et puis des nouvelles fonctions, on voit beaucoup arriver des platines avec, comme indiqué, une fonctionnalité qu'on appelle le profil 2.0 ou le BD Live. Alors c'est intéressant de regarder de près ces platines puisqu'elles proposent, même si ce n'est pas encore très généralisé, des contenus complémentaires. C'est-à-dire la possibilité, par exemple, lorsqu'on regarde un film, de pouvoir télécharger des bandes-annonces puisqu'il y a des liaisons Ethernet sur ces produits. Et puis aussi de pouvoir remettre à jour le produit sans pour autant aller chercher sur Internet en gravant un disque la nouvelle mise à jour.
Donc dès que je mets mon Blu-ray dans la machine, elle se connecte sur Internet pour dire, ben voilà, lui il a mis par exemple, je sais pas moi, le DVD d'un film Iron Man par exemple, voilà. Qui va sortir dans quelques mois. Automatiquement, elle va regarder sur Internet s'il y a des contenus et elle va me les proposer en téléchargement.
Voilà, on pourra avoir du bonus, ça sera du stream, hein, tout simplement. D'accord. Et on a des bonus.
Mais de la même qualité que du DVD, non ?
Ça peut être SD ou HD, après ça dépendra des débits. Mais il pourra y avoir de la haute définition également sur du stream, hein, à condition bien sûr d'avoir la ligne qui convient. Mais c'est non seulement du bonus par rapport au film qu'on a acquis, mais également ça peut être des bonus, des bandes-annonces de films D'accord. à venir. Donc plein de choses intéressantes et c'est très interactif, bien sûr.
Tous les lecteurs Blu-ray sont compatibles avec ce système ou pas ?
Alors pour l'instant, non. Hein. Encore une partie en fait des lecteurs, il y en a de plus en plus.
Et c'est la PlayStation 3, elle est.
Absolument, la PlayStation était finalement depuis le début la platine.
C'est la première et c'est la plus complète finalement.
Exactement, celle qui était plus orientée vers la mise à jour aussi parce qu'elle avait été pensée un peu différemment des platines de salon.
Voilà. Donc ça c'est pour le Blu-ray. Alors aussi en enregistreur hein, maintenant.
Et oui,
hein.
On voit pour la première
enregistrer
fois
sur Blu-ray en fait des programmes télé.
Voilà, on connaissait jusqu'alors le Blu-ray enregistreur mais sur l'informatique pour sauvegarder les données. Là on parle maintenant d'enregistrer des programmes de télévision sur un Blu-ray. C'est Panasonic qui propose cette technologie avec donc un produit qui a un double tuner TNT haute définition. On peut enregistrer soit sur le disque dur soit sur le Blu-ray. Et donc c'est la première fois qu'on voit arriver ce type de produit à un prix, il est vrai, encore très très élevé puisque là on parle d'un produit de l'ordre de 1800 euros.
Ah oui, donc c'est quand même assez élevé.
Et oui, c'est plus cher qu'un écran, donc, mais tout ça va bien sûr très vite baisser.
Il y aura peut-être une chose à bien vérifier. Est-ce qu'on pourra enregistrer tous les programmes en haute définition parce que il semblerait que certaines chaînes pourront interdire l'enregistrement d'un film qui est diffusé en HD je sais pas sur une chaîne gratuite.
Absolument. Alors pour aujourd'hui, c'est assez difficile de le savoir
parce que ça servira plus à rien.
Voilà, parce que effectivement, on a le risque de voir la possibilité d'enregistrer un film sur le disque dur parce que lui est quelque chose de fixe, mais par contre que ce même film ne puisse pas être enregistré sur le support Blu-ray. Donc voilà, ça c'est une interrogation et on aura la réponse bien sûr dès l'arrivée de la TNT HD fin octobre en France. Voilà.
Pas d'informations pour l'instant.
Pour l'instant,
rassurante,
pas d'informations.
Ou inquiétante. Hein.
Exactement, ni dans un sens ni dans l'autre.
Voilà, un peu toutes les nouveautés. Il y a aussi des micro-chaînes qui arrivent. Hein,
avec énormément de choses aussi connectées.
Plein de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis des petites chaînes home cinéma, très sympa. Mais on y reviendra parce que je sais
avec
que vous travaillez sur un dossier là-dessus, sur tout ce qui est home cinéma. C'est toujours intéressant de voir un petit peu quelles sont les nouveautés là aussi.
Exactement.
Pascal Petit, merci.
Merci François.
Toujours passionnant de passer ce petit quart d'heure avec vous, directeur des labos Fnac. Vous restez avec nous sur RMC. La suite de Quoi je me mêle, c'est là tout de suite. Donc vous restez avec nous. À tout de suite.
RMC, De Quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, De Quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. On va terminer tranquillement cette première heure en parlant de photo numérique. Et puis, sachez que dans la deuxième heure, je recevrai l'un des dirigeants de Bouygues Télécom. La rentrée chez Bouygues qui est
assez chargé, avec à la fois de nouveaux forfaits, mais aussi un nouveau métier pour Bouygues, celui de fournisseur d'accès à Internet. Et puis je recevrai aussi le PDG de Sony Computer Entertainment, puisque vous le savez, la PlayStation 3 évolue. La TNT HD arrive sur la PlayStation 3, ça s'appelle le Play TV. Vous verrez que derrière ce petit accessoire se cache un maximum de fonctionnalités. On en parlera tout à l'heure avec Georges Fornet, donc, qui sera mon invité. Donc c'est ce week-end que la Photokina ouvre ses portes à Cologne, en Allemagne, un salon que nous vous ferons vivre samedi prochain dans De Quoi Je Me Mail. Mais d'ores et déjà, je vous propose de faire un focus sur Canon. Canon, l'un des poids lourds de la photo, qui en cette rentrée annonce une flopée de nouveaux produits, bien sûr, aussi bien dans le monde des petits compacts que dans celui des réflexes haut de gamme. Et pour en parler, je reçois Pascal Briard. Bonjour Pascal Briard.
Bonjour François.
Vous êtes le directeur de la communication chez Canon France. Alors, en 5 ans, l'équipement photo numérique a envahi les foyers. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo numérique. Le marché est très concurrentiel avec beaucoup d'acteurs de qualité. Alors, on va en citer quelques-uns. Mais il y a Sony, Kodak, Panasonic, Olympus, Fuji, entre autres. Il y en a d'autres. Hein. Est-ce que aujourd'hui, se faire une place au soleil dans le domaine de la photo numérique, Pascal Briard, ça devient un peu compliqué?
Ça devient un peu plus compliqué qu'il y a quelques années, effectivement, puisque, comme vous l'avez dit, deux nouveaux entrants sont là, à côté de nous, et sont prêts, bien entendu, à grappiller leur part de marché. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrents, d'acteurs sur ce marché, mais il y a de plus en plus également d'appareils vendus. Donc, je veux dire que le gâteau, d'une certaine façon, agrandi.
Oui.
C'est agrandi, donc, donc si on est comme Canon, pas trop mauvais en termes d'innovation et de technologie, on arrive à acquérir des parts de marché de façon assez spectaculaire. Il faut que l'innovation soit au rendez-vous, hein, bien entendu, puisque la mentalité des Français a un peu changé depuis ces dernières années.
Le marché saturé commence à être saturé dans le domaine de la photo numérique ou pas?
Alors si on regarde globalement le marché de la photographie, vous savez qu'il y a deux grandes catégories de produits qui composent ce marché. Il y a d'un côté les compacts, je dirais ces petits appareils pas très encombrant, avec des objectifs qui ne sont pas interchangeables. Et puis de l'autre côté, il y a les réflexes numériques qui sont plutôt destinés à une clientèle un peu plus avertie. Mais on s'aperçoit que, concernant les compacts, on arrivera à la fin de l'année à environ 4 700 000 pièces achetées par les Français.
C'est un marché... Toutes marques confondues. Bon, c'est un chiffre qui vous fait rêver, Pascal, vous.
C'est un chiffre qui me fait rêver, c'est énorme. 4 700 000 compacts dans une année, ça représente une croissance qui est très légère de 1% par rapport à la même période.
Malgré la morosité économique, c'est un marché qui est en légère croissance.
C'est un marché en légère croissance, plus 1%, ce n'est pas spectaculaire. Par contre, en termes de croissance, valeur, là, la bonne nouvelle pour les Français, c'est que le prix moyen baisse et que les Français vont pouvoir acheter leur compact de moins en moins cher. Donc ça, c'est la bonne nouvelle.
99€ aujourd'hui, enfin, c'est encore, on trouve encore des prix plus bas. Hein. Votre premier prix, c'est combien?
C'est 119€.
Voilà, 119€. Voilà, donc, et on a un appareil qui tient la route.
Absolument. Je rappelle, il y a un chiffre qui est intéressant en termes de comparaison, c'est de se dire, du temps des années folles de l'argentique, du temps où on mettait encore des films dans nos appareils photo,
ça paraît très loin,
pourtant c'est pas si loin que ça. Mais il s'est jamais vendu plus de 3 millions de compacts en une année, et là on a 5 millions en 2009. Donc vous voyez que la photo numérique a apporté quelque chose de formidable sur la population française. Elle a donné, ou l'a redonné plus exactement, envie aux Français de faire de la photo. Ça, c'est incroyable.
Ouais. Donc
Les chiffres
sont plutôt positifs. Et puis il y a ce marché émergent. Moi, je me souviens, les réflexes, quand j'étais gamin, j'avais un oncle qui en avait un. Je regardais ça un petit peu comme un ovni, parce que c'était un appareil lourd, très très cher, qui faisait des photos magnifiques. Aujourd'hui, ça se démocratise.
Complètement. Effectivement, les freins sont un peu tombés. Vous disiez qu'il est... La réputation du réflexe, c'était il y a 5 ans. C'est lourd, c'est cher, c'est encombrant, c'est compliqué à utiliser.
C'était pas faux, cela dit, il y a 5 ans.
C'était pas faux, on a fait beaucoup de progrès jusqu'à obtenir encore cette année des chiffres incroyables. Il va se vendre, enfin les fabricants, le total du marché, ça va représenter 410 000 pièces vendues en 2008. En 2009, on attend 440, 450 000 pièces. Donc oui, c'est un marché qui est à plus 26%, si je prends un chiffre extrêmement précis.
Mais ça ne représente même pas 10% en fait des ventes de compacts.
Ça ne représente pas 10%. Donc ça prouve l'énorme potentiel, précisément, sur ces appareils, sur ce marché des appareils réflexes. Et la mission, je dirais, de Canon, qui a toujours orienter un petit peu sa stratégie sur des produits de qualité, plutôt moyen haut de gamme, c'est justement de donner envie aux gens qui ont des compacts relativement moyen haut de gamme, et bien de franchir le pas et de se dire, après les compacts, il y a une autre façon de faire de la photo.
Mais c'est ça qui est amusant, Pascal Briard, c'est qu'on commence avec un petit compact, à 100€. Bon,
On s'amuse et puis on se dit « Ah, tiens, ça, je peux pas le faire. Dans la pénombre, c'est pas terrible. J'ai envie de zoomer un petit peu plus. J'aimerais avoir un grand angle, etc. » Petit à petit, on monte en gamme et puis très vite, on se rend compte que bah, finalement, si on est accro à la photo, il faut passer au réflexe.
Il faut passer au réflexe. Parce que le réflexe, précisément, est devenu très facile d'emploi. Il est devenu très léger. Hein. Un boîtier EOS 450D chez Canon, ça pèse 400 grammes. Donc, c'est quelque chose de très, de très, très accessible en termes d'encombrement et de poids. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a vu l'émergence de nouvelles cibles et de nouveaux consommateurs. Et quand je dis consommateurs, je devrais dire consommatrices. Aujourd'hui, les jeunes, les étudiants, mais surtout les femmes, ont envie de faire de la photo créative. Il n'y a pas de raison qu'une femme n'ait pas accès à la créativité. Elles sont là tous les jours
mais pour le trouver. Mais qu'est-ce que ça... Alors, bon, concrètement, là, ça s'apporte quoi, le fait de passer à un réflexe, pour ceux qui n'y connaissent rien? Avoir un compact sympa et investir 500, 600, 700, 800 euros dans un réflexe, qui est une somme quand même, hein, attention.
Bien sûr.
C'est un investissement, c'est un beau cadeau de Noël. Qu'est-ce que ça apporte pour le photographe, on va dire, amateur?
Oh, j'ai envie d'appeler ça la magie de la photoréflexe. Quand on a mis une seule fois un œil à l'intérieur du viseur d'un réflexe, on est complètement étonné de la clarté, de la grandeur de l'image que l'on perçoit à travers le viseur. Et puis la magie des objectifs interchangeables. Je pars en safari au Kenya, j'ai accès à un 200, 300, 400 mm pas cher. Je fais de la photo de paysage, je peux avoir un 17 mm, je peux avoir un 24 mm. C'est la magie de l'objectif.
Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, ces millimètres-là, ça explique quoi? C'est des zooms, c'est des angles, c'est quoi?
Alors les millimètres, ça exprime la notion de focale. Et pour faire simple,
voilà,
on va dire que l'œil humain correspond, la vision de l'œil humain correspond à un 35 mm à peu près en termes d'angle de champ.
Comme la pellicule du cinéma, en fait, c'est ça.
Exactement. Et un 28 mm, bien ça donne une visée plus large. Donc ça permet de rentrer, je dirais, plus d'éléments à l'intérieur de l'image. C'est particulièrement utile quand on est en vacances et quand on veut faire des panoramiques, par exemple. Mm-hmm. Quand on fait une photo de groupe en famille, eh bien, ça évite d'oublier la grand-mère qui est sur le côté. Elle est sur la photo, elle.
Donc,
aussi.
Donc, plus on a de millimètres, entre guillemets, plus c'est un grand angle, c'est ça?
Exactement.
Hein,
pour qu'on
schématise. Mais aujourd'hui, il y a des compacts de chez vos concurrents, chez Pana, par exemple, qui font des produits assez étonnants, avec presque du grand angle sur des...
C'est clair.
Sur des compacts.
Chez Canon aussi.
Il y en a d'autres.
On lance par exemple des compacts là, avant la photo Kina, équipés de grand angle 28 mm.
Donc on se rapproche de ces fameux 35 de la visée de l'œil.
Exactement. Ce qui est important, j'ai envie de dire, pour revenir au marché de la photographie, c'est que les fabricants, c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, sont tout d'un coup, et on se met dedans, nous Canon, sont devenus un peu plus raisonnables et un peu plus intelligents. Ces 5 dernières années, on a assisté à ce qu'on appelle la course au pixel. Ça veut dire que quand Canon...
C'était aussi un argument marketing.
C'était un argument marketing.
Plus on a de pixels, mieux c'est, et les gens en fait ne regardaient même plus les spécificités de l'appareil, regardaient combien il y avait de mégapixels.
Exactement.
Sur l'appareil photo.
Qui était une fausse indication, on peut le dire maintenant.
Et on l'a dit très vite dans De quoi je me mêle, au tout début de cette flambée des pixels, nous on vous a dit, à vous qui nous écoutez, attention. C'est pas la peine d'acheter des 10 mégapixels, parce que 10 mégapixels c'est énorme, et ça peut avoir aussi des inconvénients.
Oui, parce que ça génère des fichiers très lourds, voilà. À ce moment-là c'est dur à manipuler, c'est dur à stocker sur un ordinateur, donc d'autant que la majorité des Français aujourd'hui ont plutôt tendance à imprimer leurs images sur un format 10-15, donc quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir des compacts
Donc vous avez cette flambée des mégapixels, c'est calmé?
C'est calmé, c'est calmé, et chez Canon et chez d'autres encore, on a commencé à un peu mieux écouter les besoins de nos consommateurs. Et qu'est-ce qu'ils disent, les consommateurs? Toutes les études le prouvent. Un, ils veulent de la simplicité d'emploi, ils ne veulent pas d'appareils compliqués, ils ne veulent pas sombrer dans la technique. Et deux, ils veulent de la qualité.
Avec toutes ces aides aussi qui arrivent sur les appareils.
Exactement,
hein,
ce que j'ai dit.
Reconnaissance de visage.
Détection de visage, suivi du mouvement, stabilisation des images.
C'est-à-dire qu'on appuie, on se met en mode automatique, la photo est à 99% des fois réussie. Quoi.
Exactement, et le principal échec de la photographie de ces dernières années, c'était la photo floue. Et aujourd'hui, les autofocus sont devenus, entre guillemets, un peu intelligents. Effectivement, si je vous prends en photo, François, eh bien, je sais exactement, en tout cas, l'appareil va détecter votre visage, et quand je vais déclencher, votre visage sera net. Et la mise au point n'aura pas été faite derrière la porte sur la porte qui est derrière vous.
Donc. Pascal Briard, on se rend compte aussi que les constructeurs comme les vôtres s'attendaient aussi à pas mal de relais de croissance dans le domaine de l'impression, avec les petites imprimantes 10-15, le fait d'imprimer ces photos même à distance, etc. Ça a bien marché, on a l'impression que ça commence un petit peu à stagner, voire à baisser. Qu'est-ce qui se passe en fait?
Il y a un essoufflement, effectivement.
On capte des photos, donc on achète de beaux appareils pour prendre des photos, mais après ces photos, qu'est-ce qu'on en fait?
on les imprime à la maison, un peu moins qu'avant. C'est vrai que l'imprimante 10-15 aujourd'hui se positionne comme un marché un petit peu moins dynamique qu'il ne l'était jusqu'à présent. Vraisemblablement, je n'ai pas l'explication exacte, mais on voit l'émergence de sites communautaires, genre Flickr sur Yahoo, etc. Est-ce que les gens et les jeunes en particulier n'ont pas envie...
partagent pas leurs photos sur Internet finalement.
Voilà, est-ce que la notion de partage ne s'accompagne pas par une mise en ligne finalement pour que nos amis, notre famille qui se trouve à distance aient accès également à notre photothèque. Il s'imprime encore beaucoup d'images à la maison, environ on va dire 40% des images produites sont imprimées à la maison, mais c'est vrai qu'il y a un nouveau phénomène, c'est le phénomène d'Internet et des sites communautaires photo. Ouais.
Pascal Brière, dernière question, vous sortez là un bridge, alors un bridge c'est entre le compact et le reflex pour faire court, donc ce sont des appareils de très bonne qualité qui permettent de faire de très belles photos, mais qui ont maintenant en plus une fonctionnalité, c'est le fait de pouvoir filmer en HD. Alors vous, d'un côté vous sortez des caméscopes HD, d'un côté il y a ces bridges qui font des images sublimes en HD et même en vidéo. Ça devient un couteau suisse multimédia maintenant, l'appareil photo ?
Oui, je crois qu'il ne faut, pas confondre. Effectivement, on vient de lancer le PowerShot S1X, qui est le premier appareil photo numérique qui permet de filmer en full HD, vous vous rendez compte ? Et je crois qu'un caméscope reste un caméscope. Je rappellerai simplement que lorsque vous avez un caméscope full HD, vous pouvez filmer jusqu'à 25 heures.
Ouais. Là, ça va être un usage de complément par rapport à la photo.
Voilà. Et puis il y a un autre phénomène, c'est le phénomène d'usage. On s'aperçoit que le caméscope a plutôt tendance, au niveau des Français, leurs habitudes, à dialoguer avec le téléviseur, l'écran plasma ou LCD en full HD. Donc je filme en vidéo et je projette et je regarde mes images sur un téléviseur. Par contre, l'appareil photo numérique, même s'il fait de la vidéo en full HD,
c'est plus sur le PC
ou sur Mac. Tout simplement parce que une incompatibilité, on utilise un format d'enregistrement qui est le MOV, M-O-V, il faut passer par l'ordi. Mais je crois qu'une situation donnée donne un instrument à utiliser et quelquefois on a besoin du compromis et ça rend bien service, c'est clair.
Pascal Brière, merci pour ces éclaircissements dans le domaine du marché passionnant de la photo numérique, avec donc toute une série de nouveautés que Canon présente donc à la Photokina. On y sera. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu. Merci,
vous êtes directeur de la communication chez Canon France. De quoi je me mail ? La suite dans un instant. Je recevrai l'un des patrons de Bouygues Télécom. On va poursuivre notre rentrée des FAI. A tout de suite.